les figures de Haute-Corrèze. Un voyage à travers les visages et les initiatives du territoire. Seulement sur Radio Vassivière. Et aujourd'hui, on part à la découverte du jardin du Centaure avec Dominique Lepage. Bonjour Dominique Lepage. Donc vous êtes comment on dit, vous êtes dirigeant du jardin du Centaure?
Alors non, ça c'est un grand mot. Longtemps on s'est appelé producteur de plantes aromatiques et médicinales, mais en fin de compte, ce qu'on aime bien, c'est le terme de paysan herboriste. Donc même il va y avoir des formations spécifiques et donc ça reflète bien voilà le travail paysans sur le pays, puisqu'on fait de la culture, et herboriste, parce que on cultive des plantes médicinales et en même temps on va les cueillir dans la nature. Donc ça reflète exactement ce qu'on est et la philosophie aussi de travail, puisque comme je répète souvent, donc là nous on travaille en couple avec ma femme, on est en agriculture biologique et on est toujours les deux pieds sur terre. C'est-à-dire qu'ici il n'y a pas d'engin à roue, et même si on utilise des binettes ou autres outils comme une motobineuse pour préparer les terrains, on a toujours le contact avec le sol.
Très bien. Et justement, du coup, dans le jardin du Centaure, il y a plusieurs parcelles, plusieurs parties différentes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors oui. Donc ici, c'est un lieu qui a été recréé il y a 9 ans, puisque nous, on est installé en Haute-Corrèze sur la commune de Saint-Hyriel-des-Jalla depuis 27 ans. On fait ça. Et on s'est déplacé sur la commune. Et là, la parcelle a fait 2,40 hectares, donc c'était une prairie, et on l'a divisée grosso modo en 3. On a un champ donc, que l'on cultive, on a une trentaine de plantes médicinales et aromatiques, donc cultivées en bio sur à peu près 1 hectare. Alors ça comprend des plantes comme bien sûr les menthes, sauge, il y a du houblon, il y a de l'origan, calendula, du bleuet, c'est très très varié et donc ça aide d'ailleurs à la diversité. Et on plante aussi des micro rangs on fait un micro bocage disons, des rangs de cassis avec des arbres pour freiner un peu les aléas climatiques. Et puis le reste, il y a une partie qui est en prairie qui sert donc à avoir du foin pour couvrir certaines cultures, puisque avec les aléas climatiques on est obligé de couvrir certaines cultures. Et la troisième partie, c'est la partie d'animation qui se divise en deux, donc un jardin d'animation où je fais mes visites, des plantes des sorcières, les plantes de la mythologie, des plantes tinctoriales et autres, on peut aussi goûter, sentir. Et il y a une partie qui est un jardin forêt ou une forêt comestible, c'est aussi une création qui est liée à faire comprendre aux gens qu'il faut peut-être modifier certaines habitudes de culture pour avoir une résilience pour l'avenir. Donc là, on mélange toutes sortes de plantes comestibles pour créer une forêt. En fait, tout se mangera dans cette parcelle.
Et tout le monde, du coup, peut venir manger ce qui se passe dans ce jardin-forêt ?
Alors, le but, oui, ça sera c'est surtout de démontrer qu'on peut faire quelque chose de différent qui pourra être résilient, mieux résister à ce qui va arriver du point de vue climatique dans l'avenir et ce qu'on commence à subir. Puisque souvent, ce qu'on a tendance à dire avec un jardin-forêt, c'est qu'on ne va pas produire plus, puisqu'on a un mélange d'espèces extraordinaires avec plusieurs strates végétales. C'est des arbres jusqu'aux plantes, aux racines et aux lianes. C'est qu'on est sûr de manger quelque chose.
Oui, parce que vous me parlez beaucoup justement de cet aspect climatique, de ce climat qui change. Comment vous vous adaptez, vous, au jardin du Centaure ?
Alors justement, nous, ça a été une révolution. En plus, moi, je viens de par formation de l'agriculture dite conventionnelle, plutôt des céréales. Et on a appris déjà il y a 30 ans à cultiver des plantes médicinales, mais encore d'une façon assez classique, même si on était en bio. Et là, depuis 6 ans, on a complètement changé notre façon de cultiver. C'est-à-dire qu'on désherbe moins entre les rangs, on laisse des adventices, on désherbe plus près des rangs pour ramasser. Donc à la main avec une bineuse électrique, puisqu'on n'utilise bien sûr aucun pesticide. On voulait aussi ne jamais intervenir vraiment sur les cultures, même avec des produits autorisés en agriculture biologique. Donc en réalité, on mélange tout, c'est-à-dire que Quand on visite le champ, bah, on voit un rang de mauve, deux rangs de calendula, trois rangs de menthe, puis un rang de sauge, un rang de thym citronné. Donc tout est bien mélangé pour un peu perturber les prédateurs. On a, d'ailleurs, ça marche assez bien. Et puis, on laisse des bandes, des petits carrés avec des plantes, soit que l'on laisse pousser naturellement, soit que l'on cultive, hein, des engrais verts. Et là, on n'y touche pas pendant toute la saison pour que ça soit un peu des réserves bah, d'animaux prédateurs des insectes de nos cultures. Et puis, on commence à planter plein d'arbres pour protéger des ardeurs du soleil, puisque là, depuis 5 ans, c'est assez bizarre et assez grave. En Haute-Corrèze, on a vraiment des périodes caniculaires sèches qu'on ne connaissait pas avant. Et principalement, on plante bon, des arbres fruitiers et des pêchers, parce que c'est un arbre qui ne coûte pas cher à semer. Hein, il suffit de garder les noyaux, pousse très vite et donne une très bonne ombre. Donc on a, moi j'appelle ça une sorte d'agroforesterie intensive dans le champ. Et bah, nous, on circule au milieu de tout ça, à l'ombre, ça coupe un peu le vent et ça a des résultats assez intéressants. Hein. On est vraiment étonné du résultat.
Donc que des solutions naturelles, vous êtes voilà, en harmonie, donc il y a des petits blaireaux qui viennent de temps en temps.
Alors oui, ça, le blaireau, nous, c'est un des animaux nocturnes qu'on aime bien, hein, on le trouve, c'est marrant. Bon, beaucoup de gens, quand on en parle, n'aiment pas les trous qu'il fait dans les pelouses et autres. Bah, nous, on gère ça, on les rebouche, on le laisse. Il faut qu'on soit en harmonie avec la nature, donc il faut qu'on accepte plein de choses. Alors bon, il me mange des groseilles, bon, il m'en laisse. Peut-être que voilà, si je suis tolérant, il sera tolérant avec moi. Le plus dur, en fin de compte, c'est d'être en harmonie avec des animaux qui vivent dans notre alentour et qui voilà, se servent aussi un petit peu.
Alors, vous m'avez aussi parlé voilà, de tout l'aspect mythologique du jardin du Centaure, hein, qui va jusque dans le nom. Comment ça se manifeste ici ?
Alors, oui, Jardin du Centaure, ça étonne des fois des personnes, puisque ça n'indique pas forcément ce qu'on fait, comme ça, de premier abord. Alors, c'est dédié au centaure Chiron de la mythologie grecque, hein, qui est un des centaures qui était très, on va dire, très cultivé par rapport aux autres centaures, hein, qui sont plutôt des êtres bagarreurs. Et donc, il a été le mentor de plein de héros grecs, et surtout, on va dire, le professeur du dieu de la médecine. Donc, il connaissait les plantes. Voilà, ça, c'était suite à une lecture des Métamorphoses d'Ovide il y a bien longtemps. Et ben, on a décidé de petit à petit, ben, en fin de compte, de faire une collection de plantes mythologiques. En fin de compte, c'est des plantes que tout le monde connaît. Il y a l'Achillée millefeuille qui pousse en ce moment dans les prés, là, qui ressemble à une carotte. Ben, c'est la plante d'Achille de Troie. Il y a les berces qui sont les plantes d'Héraclès. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a plein de plantes comme ça où il y a des histoires mythologiques. Donc du coup, c'est devenu même deux livres. Ça m'a pris une passion de découvrir toutes ces histoires. Et puis bon, ça s'est même, on va dire, étalé à de la mythologie égyptienne, à la Bible, puisque dans la Bible, il y a beaucoup aussi d'histoires de plantes. Et puis au fur et à mesure, ben, voilà, le jardin s'agrandit. Il y a des petits panneaux, puisque en même temps, c'est un lien avec l'étymologie. Et depuis une quinzaine d'années, avec une prof de latin du Collège des Gletons, ben, j'interviens en cours et on fait faire un herbier aux élèves de 3e qui ont choisi latin et grec. Et puis, ils viennent à pied dans le jardin du Centaure et on pose plein de questions sur ben, les mots grecs, les mots latins qui sont utilisés par les botanistes et aussi les noms des plantes.
Justement, oui, vous faites venir plein de gens dans ce jardin, tout le monde peut voilà, venir le visiter. Et donc justement, voilà, vous leur parlez des histoires des plantes, de cette mythologie.
Alors oui. Alors déjà, on peut venir, il n'y a pas de porte, hein, on peut rentrer, visiter le jardin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas autant de panneaux qu'il y avait au début, hein, puisque ça... Bon, déjà, c'est dur de les conserver longtemps. Il y a des ardoises avec les noms. Quelquefois, il n'y a pas de nom. Alors, si les gens ils nous trouvent dans le champ, en train de ramasser, ou, voilà, ils peuvent nous demander des précisions. Après, il y a des visites programmées. Alors, sur l'utilisation des plantes médicinales, par exemple, ou, alors, ce qui est la plus courue, on va dire, c'est sur les plantes dites des sorcières, où j'ai un beau massif de plantes toxiques, et donc qui permet d'avoir plein d'anecdotes sur ces utilisations de plantes, hein, qui vont de l'Antiquité, hein, Socrate et la ciguë, jusqu'à très récemment, hein, comment on éliminait des espions voilà, avec des plantes. Même si vous venez à une de ces animations programmées, qui sont totalement libres, vous découvrirez peut-être comment on peut voler sur un balai. Voilà, je ne donnerai pas toute la formule, mais des indications avec des plantes qui sont pas très communes, mais que, voilà, qui existent dans notre flore.
C'est l'occasion aussi de parler de légendes de la région.
Alors, c'est l'occasion, oui, de parler de légendes de la région, même, et puis de Harry Potter, par exemple, hein, aussi, hein, puisqu'il y a plein de choses dedans, d'anecdotes locales. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien le côté, on va dire, culturel, décaler un peu les facettes sur les plantes. Alors, une plante... n'importe laquelle, mais surtout si elle est médicinale sauvage, bah souvent on peut donner des propriétés, comment on s'en sert, mais en même temps il y a des histoires derrière, liées au nom, liées justement aux usages locaux, et on se rend compte qu'il y a plein de choses derrière des plantes toutes simples qui poussent chez nous.
Et donc Dominique Lepage, vous êtes fils d'agriculteur, et aujourd'hui donc, vous avez créé donc, le jardin du Centaure avec votre femme. C'était quoi le but au départ de créer le jardin du Centaure? Est-ce que c'était voilà, justement pour transmettre, pour parler des plantes avec tous les visiteurs? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons?
Alors en réalité, c'est un peu bizarre parce qu'on nous pose souvent la question. Et alors, des gens qui font des plantes ou même du maraîchage, souvent en agriculture bio ou d'autres choses, bon, maintenant, il y a beaucoup de conversions, il y a toujours une histoire derrière. Et nous, c'est un peu particulier parce qu'en réalité, souvent par boutade, je dis que c'est un peu l'Esprit Saint qui nous est tombé dessus. Parce qu'un jour, on a décidé de faire des plantes médicinales, comme ça. Hein, parce que ni ma femme ni moi, nous n'avons des parents, des grands-parents qui utilisaient des tisanes ou qui avaient un savoir à transmettre. Et on est arrivé en Corrèze par hasard. Et on a créé le Jardin du Centaure. Et on a eu la chance de rencontrer donc, Thierry Thévenin, qui est connu dans le monde des plantes, qui est très couru, d'ailleurs qui a beaucoup de connaissances, et qui nous a formés la première année où on est arrivé, juste avant qu'on s'installe. Et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, on voulait juste faire des plantes. Hein, et on s'est pris au jeu, on a découvert l'ethnobotanique, moi j'ai découvert la mythologie et les plantes. Et c'est devenu ce jardin du Centaure où on souhaite souvent partager ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris. Et puis, bah justement, là, depuis quelques années, le transmettre hein, pour les gens qui ne sont pas très loin d'ici, deux fois par mois, là, de septembre à juin, eh ben, je fais des petites balades comme ça. Où le but, c'est de transmettre des savoirs que nous, on a acquis et qui permettent de connaître les plantes, de les utiliser de façon très très simple, et aussi de parler de savoirs anciens, comme les usages de Hildegard de Bingen, par exemple, au Moyen-Âge, de faire de l'étymologie, bien sûr, mais quelque chose qui a eu un succès au mois de juin, là, et qui va continuer, c'est les plantes fumables. On a fait une petite conférence l'après-midi avec un maraîcher de Neuvik qui a eu la chance de travailler avec un chaman péruvien pendant un an et demi au Pérou. Et tous les deux, on a parlé du tabac, bien sûr, puisque c'est une plante chamanique d'Amérique du Sud, mais aussi des plantes qu'on peut fumer en dehors du tabac pour arrêter de fumer ou pour se soigner. Et on a fait des essais donc, de fumer du bouillon blanc, de la molène, du tussilage, avec de l'aspérule. Et apparemment, bon, il y avait des intérêts, puisque certains m'ont dit qu'ils s'étaient sentis plus détendus le lendemain.
Et en toute légalité. Très bien. Le jardin du Centaure, c'est une ferme à taille humaine. Hein, donc vous êtes avec votre femme. Vous aviez aussi vos 5 enfants. Eux aussi, donc ils ont découvert avec vous les plantes médicinales, les plantes sorcières, les jardins à forêt.
Alors oui, alors ça c'était une volonté en plus personnelle. On voulait avoir 5 enfants, donc on a 5 enfants. Alors maintenant, bon voilà, ils commencent à être un peu grands puisque le dernier a 15 ans. Alors il n'y en a aucun qui était vraiment intéressé par les plantes, peut-être parce que des fois on leur demandait un petit coup de main l'été et puis ils ont suivi chacun leur voie, mais bon, ils savent des choses. On verra, le principal, c'est que nous, on a pris plaisir à ça. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est être la preuve vivante qu'on peut réussir sur une ferme à taille humaine, dans des productions hein, comme les plantes médicinales, mais aussi peut-être les petits fruits ou le maraîchage, sans s'éreinter au travail. Et donc, il faut valoriser bien sûr la vente directe, mais que c'est possible un autre type d'agriculture, surtout pour ces productions-là, en bio, local, et qui serait disponible justement à toutes sortes de consommateurs locaux, puisque c'est à ça qu'il faut revenir, et le contact justement aussi avec les gens, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir parler aux gens qui viennent.
Et donc oui, vous me dites que c'est sans s'éreinter au travail, parce que voilà, c'est montré que c'est possible de, voilà, d'être tout à fait en harmonie avec la nature, de ne pas mettre de pesticides, de juste voilà, allier plusieurs plantes pour les protéger entre elles. C'est aussi ça du coup que vous vouliez montrer, que c'est possible voilà, de faire une agriculture douce et qu'on peut se nourrir comme ça et nourrir plusieurs, enfin une belle population.
Oui, oui. Alors, les modèles peuvent être différents entre des plantes aromatiques et médicinales et par exemple du maraîchage. Mais ce qu'il faut, c'est ce que j'explique, puisque j'ai été céréalier en fin de compte, puisque j'ai vraiment été céréalier pendant 2 ans. Bon, un vigneron, un céréalier, quelqu'un qui fait du foin, que ce soit en bio ou en conventionnel, il va travailler dur au moment de la récolte parce qu'il ne veut pas perdre sa récolte pour une histoire de pluie, d'orage et tout. Donc il peut faire jusqu'à 12 heures par jour. Voilà. Mais il va le faire pendant 15 jours, 3 semaines. Après, il a du temps de repos, si on veut. C'est moins dense. Par contre, quand vous faites des récoltes sur 3 mois, c'est notre cas, là, par exemple, juin, juillet, août. Bon, en plus, nous, il y a les animations. J'ai pas envie de travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc, nous, on s'est fixé de travailler à peu près 8 heures par jour. Et donc, de réfléchir à comment on peut y arriver au mieux. Donc, nos cultures sont à côté de la maison. Notre coin, on va dire, professionnel est pas loin de la maison. Donc, les gens peuvent venir. On est toujours un peu disponible. Dans l'organisation du travail, il faut tout simplement réfléchir à comment je vais faire ça dans les 8 heures de la journée à peu près, avec de l'imprévu et tout. Alors, c'est peut-être un peu plus facile avec les plantes qu'avec des légumes, mais je pense que voilà, sinon on n'aurait pas tenu autant de temps et on n'aurait pas le sourire aux lèvres toujours.
La boutique, elle est voilà, juste à l'entrée du jardin et on peut y accéder quand on veut, même si vous n'êtes pas là, si vous êtes dans les champs.
Alors voilà, donc nous, le champ est derrière, un peu plus loin que la boutique. Et bon, ça peut arriver qu'on soit en cueillette. Alors, ils peuvent prendre ce qu'ils ont besoin. Il y a un carnet et puis donc ils mettent l'argent dans une boîte. Et bon, nous, on récupère ça dans l'heure qui suit ou à la mi-journée.
C'est une belle relation de confiance voilà, que vous avez avec les visiteurs.
Ah oui, oui, alors, puis je pense que c'est une caractéristique du plateau aussi, hein, parce qu'on n'est pas ni les premiers. Hein. Je connais d'autres personnes qui font ça. Je sais qu'il y a un apiculteur, il doit y en avoir d'autres qui laissent voilà, des produits à disposition pour dépanner les gens s'ils sont absents ou s'ils sont dans la maison ou qu'ils veulent prendre un peu de temps. Et je crois que, de toute façon, si on veut changer les choses, comme on dit, il faut commencer par soi. Hein, c'est facile de dire aux autres comment il faut faire. Et surtout, pour ce qui est de la confiance, et je vois, là, bon, c'est pas récent, hein, ça étonne certaines personnes. Là, je comprends que dans certaines régions, ça soit impossible. Mais en même temps, ça interloque et ça montre que quand on fait confiance, des fois, les gens sont même plus stressés que nous parce qu'ils ont peur de faire des erreurs ou tout ça. Alors après, ce qui est aussi génial, c'est qu'on a des petits mots en plus, des gens qui nous remercient de cette confiance ou qui nous demandent des nouvelles puisque c'est des habitués et tout. Et donc, on a tout un carnet là, comme ça, avec des mots, des signatures et autres choses marquées. C'est vraiment très, très gentil.
Donc maintenant, Dominique, on est dans votre boutique, donc là où on voit tous les sachets avec vos plantes séchées. À côté, il y a le séchoir, et donc toutes ces plantes sont médicinales finalement.
Oui, oui, oui. Alors souvent, on utilise le terme de plantes aromatiques et médicinales, mais bon, on peut dire plantes médicinales parce que celles qu'on considère comme aromatiques, n'allant que dans la cuisine, comme la sauge, c'est connu pour agir sur les bouffées de chaleur. L'origan, c'est très bon contre la toux. Donc, en fin de compte, elles sont toutes médicinales. Et celles qui ont bon goût vont servir en plus dans la cuisine. Et ben, principalement, de toute façon, nous, ce qu'on vend, ce sont des plantes pour faire des infusions, pour dormir, pour la digestion, pour améliorer la circulation du sang, pour un peu doper le système immunitaire, pour aider à éliminer, à maigrir, à avoir moins mal aux articulations, puisque il y a des plantes, voilà, qui nettoient un peu et tout. C'est des usages immémoriaux. Et souvent, j'ai tendance à dire, bah oui, on fait ça depuis 27 ans. Si vraiment ça marchait pas, ça aidait pas un peu, il y aurait longtemps qu'on aurait fermé la boutique. Et donc, voilà. Donc, ici, on sèche, on va après travailler les plantes à la main, c'est-à-dire les effeuiller, garder les parties donc nobles pour faire les tisanes. Et ce qui est important, donc, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est la couleur. Donc là, la chance qu'on a, c'est que ce n'est pas des infusettes. Alors, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais pas vraiment à faire une tisane, hein. Il suffit d'une boule à thé et puis on fait la tisane. Mais on va voir les plantes et elles ne sont pas broyées, ce qui va permettre de conserver le maximum de propriétés, puisque dans les cellules, elles sont intactes, il y a encore toutes ces bons ingrédients là qui vont se diffuser dans la tisane. Et la couleur va être l'indice de la qualité des plantes, c'est-à-dire de l'origine de l'année de la plante. Les plantes qui seraient grisâtres et tout, ce qu'on voit plus quand elles sont broyées dans une infusette, bah, elles ont moins de propriétés, elles sentent moins bon. Là, on peut voir la couleur des plantes. Donc ça, c'est important. Nous, on trouve que c'est très important. Et le fait, voilà, de les travailler à la main, c'est ne pas les brutaliser non plus dans des machines. Et donc, bah voilà, on a des clients depuis très longtemps, on est très satisfait et je pense que voilà, on est vraiment content de ce qu'on fait.
Et ceux qui viennent pour la première fois, vous leur proposez voilà de visiter le séchoir. Et quand on rentre, c'est vrai qu'il y a une odeur qui vient directement, ça sent bon. Là, vous m'avez montré des bleuets, donc justement qui sont vraiment bleus, d'un bleu profond et qui montrent donc que voilà c'est de la bonne qualité, que c'est fait à la main et qu'on peut retrouver voilà juste à côté dans la boutique ces plantes-là.
Oui, alors là, le séchoir, c'est toujours magnifique. Là, bon, on avait coupé de la livèche, donc ça sent peut-être c'est toujours un mélange, hein, mais c'est une dominante un peu de céleri. Quand on coupe de la menthe, ça sent depuis l'extérieur. Il y a des gens qui se gardent dehors, qui nous disent, mais ça sent là depuis dehors. Donc on a les odeurs en rentrant dans le séchoir et les couleurs, hein, du calendula orange, du bleuet, bleu vif. C'est magnifique, ça étonne les gens, ça crépite les photos. Enfin, maintenant, on prend des photos avec les téléphones portables, ça crépite moins qu'avant, mais j'ai toujours eu plein de gens qui prenaient des photos étonnés. Et ça, c'était vraiment la joie. Depuis le début, on voulait montrer le séchoir, qu'on puisse rentrer dedans une dizaine de personnes, hein. C'est une pièce en bois, hein, qui est magnifique, hein, le fait que ce soit lambrissé. Et en plus, quand on montre toutes ces couleurs dans cette ambiance d'odeurs multiples, on voit les yeux qui pétillent. Moi, ça me fait toujours plaisir.
Voilà, on va se balader un petit peu dans le jardin. Est-ce que vous voulez me montrer, voilà, certaines plantes
Oui, alors donc par exemple là on est à l'entrée, on est dans le coin de la mythologie. Alors il y a plusieurs plantes qui sont dédiées à des héros grecs. Alors là on a par exemple l'Achillée millefeuille, hein, qui est une plante de cueillette que nous on ramasse. Hein, on en ramasse quand même pas mal, puisque une plante qui va aller dans des tisanes qui vont être des tisanes de détox aussi. C'est une plante qui a été utilisée longtemps pour les règles des femmes, donc pour réguler les règles. C'est une plante d'ailleurs qu'on peut manger au printemps, hein. Elle a une odeur camphrée qui est intéressante à mettre dans des salades, hein, pour apporter un peu de nature. Bon, derrière, par exemple, on a une plante qu'on va retrouver dans le coin des toxiques qui est l'if, parce que, bon, alors lui, c'est un arbre toxique, hein, mais qui est dédié justement à une grande déesse un peu infernale de l'Antiquité, Hécate. On a un érable, parce que c'est l'arbre du dieu de la guerre, Arès. On a un frêne, parce que c'est lié à la mythologie celtique, c'est le frêne Yggdrasil, c'était l'axe du monde. On a les rosiers qui sont dédiés à Aphrodite, parce qu'ils étaient toutes blanches, et elle s'est blessée sa jambe à des épines de roses qui sont devenues couleur de son sang. C'est magnifique, hein, de savoir ça. Quand vous regardez un églantier, vous dites c'est le sang d'Aphrodite qui a coloré ses pétales. Et puis à côté, on a des coquelicots où j'ai une petite histoire, bon, qui est peut-être un peu longue à raconter là, mais qui sont dédiés, bah, à un épisode du Nouveau Testament, hein, qui est la crucifixion. Et il était au pied de la croix, et il est rouge du sang du Christ, hein, puisqu'il est resté l'accompagner dans toute cette crucifixion du Vendredi Saint. Et voilà, et ainsi de suite, des plantes qui sont liées à toutes sortes de mythologies. Et dès qu'on raconte des histoires, on va les regarder différemment. En fin de compte, on va même peut-être, c'est ce que j'espère, les respecter un peu plus.
Oui, parce que finalement, en fait, c'est des plantes qu'on connaît. Hein. Donc, vous me parliez voilà, de l'érable, du frêne. C'est des arbres qu'on connaît, mais on ne connaît pas leur histoire. Donc, c'est l'occasion voilà, de les découvrir et de se rendre compte que finalement, c'est des plantes mythologiques.
Ah oui, et c'est toute cette, on va dire, culture, elle est même mixte parce que c'est une culture populaire. Hein. Il y a plein d'histoires comme le coquelicot, par exemple, ce que je venais de citer. Et puis, il y a une culture scientifique, puisque quand Linné a classé les plantes, par exemple, pour ce qui est de l'armoise, elles sont classées dans un genre qui s'appelle Artemisia, qui est dédié à Artemis. Encore, pareil que l'Aquilée, c'est lié à la déesse, pas seulement de la chasse, c'est la déesse des jeunes femmes, donc parce qu'elle avait un pouvoir sur justement la régulation des règles. Donc Artemisia, bah, ça va donner un genre qui a été créé au XVIIIe siècle, qui est lié en fin de compte à la culture gréco-latine de tous ces scientifiques. Et ce qui est génial, c'est que si on étudie, donc en dehors de ce qu'on pourrait étudier quand on étudie les plantes médicinales, c'est-à-dire on apprend bah, les compositions et à quoi ça sert, si on fait un peu de culture, on étudie de l'étymologie, de la mythologie, c'est pour ça que j'avais écrit deux livres sur la mythologie et les plantes, et que j'avais même essayé de forger le terme de mytho-botanique, puisque sachant le mythe, on pouvait connaître donc l'usage thérapeutique de la plante. Et donc toutes ces histoires-là nous permettent de mieux comprendre aussi comment les gens ont regardé ces plantes-là, ont mis des histoires dessus parce qu'elles étaient là, pourquoi elles étaient là. Et c'est des histoires qui sont magnifiques et qui viennent juste aussi enfin, se coller à la partie scientifique qui explique bah, pourquoi une plante produit ça et tout. Et ça fait un monde merveilleux qui est moins aride.
Merci Dominique Lepage de m'avoir fait visiter le jardin du Centaure.
C'était avec plaisir et n'hésitez pas, si vous passez à côté des gletons, à vous arrêter puisque il n'y a pas de porte, hein, on peut venir visiter tout le temps. Et j'espère à bientôt.
Donc c'était à Saint-Hériel-Déjala, c'est en Pouillange.
Voilà, alors nous sommes situés sur la commune de Saint-Hériel-Déjala qui est juste au nord des gletons. Le lieu dit c'est en Pouillange, nous sommes sur la route de Saran à 2 km du bourg, c'est Fléché.
Très bien, merci Dominique Lepage.
C'était les figures de Haute-Corrèze sur Radio Vassivière.